Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
François Pinet.
Bonjour à toutes et à tous, les grandes gueules du sport, c'est en direct sur RMC de 9h à midi, tous les week-ends et même pendant les vacances. Bon réveil à vous, bon dimanche à tous avec un programme de qualité que l'on vous offre ce matin. Un programme de qualité pour nos GG, on va parler du PSG qui gagne contre Montpellier, mais Mbappé a fait du boudin, premier match du français. Des attitudes étranges qui pourraient s'expliquer par des problèmes perso, on vous explique tout dans un instant. Et on vous pose cette question, est-ce que le PSG est encore Mbappé dépendant alors que l'on a vu Neymar et Messi s'amuser ensemble sur le terrain. On en parle avec nos GG dans un tout petit instant. À 10h, la punchline des GG, signée Carlo Ancelotti, le coach du Real qui dresse les louanges de son joueur Karim Benzema. Il nous offre une question qui tue. Écoutez bien, Benzema ou Zidane, qui a le plus marqué l'histoire du Real Madrid? Vous pouvez déjà commencer à y réfléchir. Les GG vont devoir trancher alors que le Real rentre dans son championnat aujourd'hui. Et c'est aussi la reprise pour Fred Hermel qui ne pouvait pas manquer ce débat et qui sera avec nous dans une heure. À 11h, les GG qui passent la seconde s'intéressent de près au championnat d'Europe multisport, du triathlon, de la gym, du cyclisme, du beach volley, de l'escalade ou encore de l'athlétisme. Il y en a pour tous les goûts, tous ces sports au même endroit, en même temps. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et puis l'invité des GG lance un cri d'alerte. Armelle Courtois, vice-championne du monde de kitesurf, veut sensibiliser sur la fonte des glaces. Elle sera avec nous en direct à 10h30. Sans oublier bien sûr votre double ration de zapping, le on s'en fout pas. Votre moment à vous, fidèles des GG, les GG et vous, on vous donne la parole pour réagir à un avis de nos GG. Vous faites le 32-16, c'est ouvert dès maintenant. Et puis on attend bien sûr vos messages tout au long de l'émission sur le hashtag RMC Live sur Twitter et sur l'appli RMC Direct Studio avec Bastien Manoda à la réalisation, Geoffrey Charpille à la production. C'est parti pour les grandes du sport.
On va pas se mentir, vous êtes pas une équipe de foot, vous êtes des quiches.
Toi t'es une quiche.
Toi
t'es une quiche.
Vous êtes tous, sans exception,
des quiches.
Mais on va essayer de vous qualifier pour la coupe. Et pour ça, il faut avoir la gagne.
Et nos GG du jour sont là bien sûr. Une GG qui, comme Kylian Mbappé, est devenue l'ami des stars. Sauf que Tom Cruise n'a jamais proposé à Kiki de faire un tennis. Marion Bartoli est avec nous. Salut Marion.
Bonjour les amis.
C'est vrai, c'est une histoire que tu nous as racontée hier. Voilà, le match entre Tom Cruise et Marion Bartoli. On l'attend encore.
C'est véridique.
Mais on attend ça avec impatience. Une GG qui, comme Kylian Mbappé, a demandé à être le patron des GG, mais la place était déjà prise justement par Marion Bartoli. Manu Amoros est avec nous. Salut Manu.
Salut François, salut Marion.
Ben oui, c'est vrai, ce
salut
sont tes demandes pour tes premières dans les GG.
Ouais.
Tu as demandé ça.
Ouais, mais je n'oserais pas prendre la place de Marion.
Bah,
elle est trop importante dans les GG.
J'espère, pas j'espère possible. Que tu t'en es rendu compte.
Ah ben ouais, je m'en suis bien rendu compte, tout ça c'est sûr.
Mais non.
Et puis une GG qui, comme Kylian Mbappé, ne doit pas tout miser sur sa pointe de vitesse. Fred Weiss est avec nous, salut Fred. C'est ce qu'on t'a dit dans ta carrière, non?
Non, mais on aurait pu.
Il faut que tu élargisses ta palette.
Oui, je pense. Bonjour.
Ravi de te retrouver, Fred, t'es avec nous et tu reviens en deuxième semaine. C'est un grand plaisir, bien sûr. Nos GG, justement, qui ont trouvé quelqu'un avec un ego encore plus gros que le leur. Et ça, c'est très très fort.
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
Et c'est donc Mbappé qui va se charger de ce pénalty. Mbappé qui s'est... Ah, c'est sorti par Jonas Omlin qui est parti du bon côté. Kylian Mbappé, la fin de frappe. Oh, le dribble d'Mbappé. Oh, le triple dribble. Ah, il en a trop fait.
Discussion par contre, messieurs, entre Neymar et Kylian Mbappé sur le point de pénalty pour savoir qui des deux allait tirer. Il y a une vraie discussion. Hein.
Et Mbappé, frustré, il s'est quasiment arrêté. Il s'est complètement désintéressé de cette action offensive, déçu de ne pas être servi. Et l'attitude d'Mbappé, Clément, elle est complètement incroyable.
Il continue de bouler. Hein. Il a la tête... En train de regarder ses pieds là, Kylian Mbappé.
Mbappé, boudeur. Mbappé ! Premier but de Kylian Mbappé.
Oui. Bah, il est parti vers son camp directement. Tous les Parisiens se sont mis sur lui, l'ont taquiné un petit peu. Il s'est même défait un petit peu d'un bras d'un coéquipier.
Il est même tout seul au rond central.
Et la sortie de Kylian Mbappé. Oh, ça paraît quand même assez froid. Hein. Cette tape dans la main avec Christophe Galtier, il y en a eu une. Mais en regardant la pelouse du Parc des Princes, et ça a été pas, c'était pas très chaleureux. Celui qui
n'a jamais... Et on attend bien sûr la chanson de Marion Bartoli.
Oh. Une fois dans sa vie.
Ah oui, non, désolé pour ceux qui se réveillent. Ça peut paraître c'est un peu ça. Violent, mais Marion Bartoli, à chaque fois qu'on met une chanson, c'est assez incroyable.
Je suis obligée.
Elle est obligée.
C'est une sorte de encyclopédie.
Bon, en tout cas, hier au Parc des Princes, tout devait bien se passer pour le PSG contre Montpellier. Une large victoire, 5-2. Neymar, Messi qui s'éclate. C'était le retour très attendu de Kylian Mbappé. Et là, c'est là que le bât blesse, puisque en plus de rater un pénalty ça arrive, on y reviendra, il a fait la tête. Une attitude étrange, comme s'il n'avait pas envie d'être là. Alors des problèmes personnels expliquent peut-être ça. En tout cas, sur le terrain, on a vu qu'il y avait une belle complicité entre Neymar et Messi. Et donc, comment Mbappé va pouvoir se situer au milieu de tout ça? D'où cette question, les GG. Musique qui fait peur. Le PSG est-il toujours Mbappé dépendant? Oui ou non? Marion Bartoli.
Oui, mais comme le seraient toutes les équipes.
Oui, oui, bon, c'est un oui. Manu Amoros.
Non.
Non. Ah, Fred Veil.
J'étais sûr de moi en disant oui. Finalement, quand Manu dit non, ça m'inquiète un peu. Moi, je vais dire oui quand même.
Reste solide sur tes appuis.
Reste
t'inquiète
sur tes
pas.
Positions.
Je campe sur mes positions.
Donc, le nom de Manu Amoros, il va y avoir débat, bien sûr. Clément Brossard est avec nous. Salut Clément.
Salut François, salut les GG.
Alors,
salut,
tu as eu une courte nuit puisque tu as commenté cette rencontre. On l'a entendu dans la petite prod hier au Parc des Princes. Tu as suivi, bien sûr, les premiers pas de la saison de Kylian Mbappé. Raconte-nous ce match un peu étrange de la part du joueur français.
Alors, on a appris après la rencontre que Kylian Mbappé souffrait de problèmes personnels sans que son entourage en dise davantage. Mais c'est vrai que ça s'est plutôt remarqué. Ça a été clairement visible sur la pelouse du Parc des Princes hier soir. C'était sa première au Parc des Princes cette saison, sa première officiellement même, puisqu'il était suspendu lors du Trophée des Champions face à Nantes et puis blessé aux adducteurs face à Clermont. Et Paris, pour le baptême de Christophe Galtier au Parc des Princes, était à la fête, Neymar notamment, irrésistible hier. Mais un joueur, c'est vrai, semblait ailleurs. C'est en effet Kylian Mbappé, un pénalty manqué, arrêté par le gardien montpelliérain, une course arrêtée aussi par frustration de ne pas avoir été servi par la recrue Vitinha. Sur le second pénalty, vous l'avez entendu dans la production, grande discussion avec Neymar de savoir qui, entre lui et le Brésilien, allait tirer. C'est finalement le Brésilien qui l'a parfaitement frappé et qui a marqué. Et puis beaucoup de gestes d'agacement, les yeux vers le ciel, les mains sur les hanches, les reproches à ses coéquipiers. Une attitude qui se remarquait clairement donc depuis les tribunes avec Julien Landry. On a évidemment, dès le début de la conférence de presse d'après-match, sondé Christophe Galtier sur l'attitude de son attaquant.
Non, c'est simplement, voilà, ce sont des joueurs de très haut niveau avec... de la personnalité, du caractère, chacun a sa manière d'exprimer et vous avez, vous, chacun, la manière de commenter les attitudes des uns et des autres et je le comprends, ça fait partie de notre job. J'ai vu cette course, je crois, en fin de première période, s'est arrêté, il aurait souhaité avoir le ballon de la part de Vitinha, évidemment qu'il est à court physiquement et quand on est à court physiquement et que quelquefois on rate des enchaînements ou qu'on pense qu'on va recevoir le ballon, on s'agace et on s'agace surtout plus vite quand on est un peu à court physiquement.
Et puis on a filé en zone mixte puisqu'on est partout, conférence de presse d'après-match.
Oui.
On essaye d'être partout, en tout cas avec Julien Landry. On a croisé Marco Verratti qui était le seul Parisien à passer devant les médias. Alors selon lui, l'attitude de Kylian Mbappé envoie quand même des signaux positifs, la frustration d'un champion. On est revenu également avec le milieu italien du Paris Saint-Germain sur le comportement de la star parisienne.
Là, Kylian, c'est un joueur qui va toujours faire bien. Je pense qu'avec les pénaltys ratés, il boudait un peu, mais c'est normal. C'est un grand joueur, il va faire toujours la différence. Quand il rate quelque chose, il est déçu, c'est normal, mais après, il l'a montré. Avec déjà le premier but, il était décisif, puis avec un autre but. Mais ça fait plaisir quand il est énervé, parce que ça veut dire qu'il tient beaucoup à cette équipe, qu'il va faire bien, il va faire la différence.
Bon, Mbappé énervé, visiblement, ça fait plaisir aux Parisiens. Il a tout de même marqué, Kylian Mbappé, le quatrième but du Paris Saint-Germain, mais pas de célébration. On a vu que tous ses coéquipiers étaient venus vers lui qui semblait ailleurs encore, agacé même. Il est sorti à la 86e minute, remplacé par Sarabia, applaudi par le Parc des Princes, mais sans un seul regard pour son coach, en regardant ses chaussures, une sortie en marchant, donc la tête basse, avant de s'asseoir lourdement sur le banc parisien.
Merci beaucoup Clément, tu restes avec nous pour ce débat. Je rappelle la question, le PSG est-il toujours Mbappé dépendant? Avec donc le non de Manu Amoros, le oui de Marion et de Fred, on en parle dans un instant. Juste pour préciser les choses, effectivement tu as parlé de ses problèmes personnels, on ne les connaît pas, non. On ne sait pas ce qui s'est passé. Alors on peut estimer, et certains estiment peut-être, que les problèmes personnels doivent rester au vestiaire et il ne doit pas montrer tout ça sur la pelouse. Mais c'est difficile de juger quand on ne connaît pas évidemment la teneur de ces problèmes personnels. On pourra en parler bien sûr. Mais d'abord sur cette question, Fred, toi tu as dit oui, le PSG, quoi qu'il arrive, est toujours Mbappé dépendant.
Évidemment, quand on a un joueur de ce talent, de ce calibre, quand on s'est battu à ce point pour le conserver, on est forcément dépendant de ce joueur. Même si, c'est encore une fois, c'est un premier match, il faut arrêter de s'enflammer. Il y a eu un seul match où ils ont joué tous les trois ensemble. C'est la première fois que les deux sont autant en forme. Je parle de Messi et Neymar. Ils sont autant en forme, ils se sentent aussi bien et ils commencent aussi bien. Donc eux, ils se connaissent sur le bout des doigts. C'est clair, on le sait, ils se connaissaient d'avant. Mbappé arrive, il a beaucoup de pression parce qu'encore une fois, il a signé, il a refusé l'Espagne. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'il peut être un petit peu anxieux, nerveux, avoir la volonté d'être le numéro un. Il a les deux qui sont super en forme, donc ça le frustre un petit peu. Encore une fois, je dis pas que Christophe Galtier n'aura pas un taf énorme à faire, mais par contre, tu peux pas prétendre à quoi que ce soit si te manque ce joueur qui est incroyable.
D'accord, mais il va falloir effectivement, et tu l'as dit et on en parlera, réussir à mettre en place ce puzzle, et c'est le boulot de Christophe Galtier.
Oui, mais encore une fois, premier
quand tu
match,
vois
premier
la match, relation tu... Messi-Neymar hier, et notamment oui. sur le but marqué par
depuis
Neymar,
combien de temps
le troisième...
ils se connaissent depuis combien de temps?
Non, mais bien sûr.
Messi-Neymar, c'est une relation qui a plus besoin d'être travaillée. Mbappé, l'année dernière, bah, les deux autres, ils étaient quand même beaucoup moins forts, beaucoup moins performants. C'est un peu lui qui a tiré le PSG. On peut dire ce qu'on veut, c'est quand même lui qui a tiré le PSG l'année dernière. Il arrive, il a loupé des matchs, il a loupé des entraînements, il n'est pas forcément en forme. Tu dis qu'il a peut-être des problèmes personnels. Il y a plein de choses qui font que, premier match, ils ont le temps que l'alchimie se crée. C'est encore une fois trois gros égos. On l'a vu sur le terrain, c'est une évidence. Il faut qu'ils trouvent leur place. Moi, je pense que c'est impératif qu'ils soient bons pour que le PSG soit bon quand même.
Ok, tu vois, Manu, tu as dit non, oui. Non, le PSG oui. n'est plus Mbappé dépendant.
Non, parce qu'il se rend compte aujourd'hui que, même s'il veut prouver qu'il est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, il est en train de se rendre compte que Messi et Neymar est bien au-dessus de d'eux. Alors, je ne parle que du début de saison. Je ne parle pas de l'année dernière où Messi et Neymar étaient complètement des oubliés du football parce qu'ils n'ont pas eu une préparation comme eux, ils voulaient. Donc, ils sont arrivés tard. Bon, je parle de cette année où on a vu contre Nantes et contre Clermont. Après, pour revenir sur la vie privée, quand tu es professionnel, tu sais faire la part des choses. Et il faut savoir faire la part des choses, sa vie privée, sa vie professionnelle.
Ça, je suis d'accord avec toi, Manu, à 100%.
Et là, il faut ouvrir un dialogue avec l'entraîneur. Il faut aller voir l'entraîneur, ou alors l'entraîneur, toute la semaine, il a dû le voir qu'il avait des problèmes. Il en a peut-être parlé. Et quand on n'est pas bien physiquement, parce qu'on a eu 2-3 semaines d'arrêt ou de préparation qui est limitée, parce qu'on a un problème de blessure, il faut aller voir l'entraîneur, discuter avec lui. Est-ce que je peux jouer ou je peux pas jouer? Est-ce que mes problèmes personnels prennent le pas sur le football? Dans ce cas-là, si la vie privée prend le dessus sur le football, il faut... que lui s'efface et se mettre au service de l'équipe.
Visiblement, il a demandé à jouer quand même. Hein. C'est lui qui a demandé.
Oui, quand tu es professionnel, tu peux pas jouer. C'est pas possible quand tu as des problèmes personnels. S'il a réellement des problèmes personnels, est-ce que c'est peut-être aussi le fait qu'il ait manqué le penalty, le fait qu'il a pas touché beaucoup de ballons, le fait qu'il soit
après,
pas
Manu,
prêt physiquement.
Coupe,
donc il y a des choses aussi qui viennent voir qu'aujourd'hui, eh ben, ils se rendent peut-être compte qu'avec un Messi, un Neymar, avec une préparation bonne,
meilleure,
il s'aperçoit qu'il n'est pas indispensable quelque part. Ouais. Parce qu'on a vu contre Nantes, eh ben, il a été très bon. Contre Clermont, ils ont été très bons. Donc, et comme disait Fred, ils se connaissent depuis des années de Barcelone et ils se cherchent en permanence.
Encore une fois.
Donc, je pense que Kylian Mbappé est en train de se rendre compte qu'il n'est pas indispensable.
Avant d'écouter Marion, une précision, Clément.
Oui, par rapport au comportement de Kylian Mbappé, et pour contrecarrer un petit peu ce que tu disais sur le fait qu'il ait manqué son pénalty hier, ce qui peut-être l'a rendu grognon, pour l'avoir vu lors de la séance d'entraînement jeudi, j'ai remarqué déjà une attitude chez Kylian Mbappé qui était étonnante, c'est-à-dire qu'il est rentré en dernier sur la pelouse du camp des loges, il était un peu à l'écart du groupe de Neymar et de Messi, et on sentait déjà que c'était pas la grande joie de vivre pour Kylian Mbappé cette semaine à l'entraînement.
Bon, et encore une fois, on sait pas vraiment pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des attitudes sur le terrain qui ont été hier très commenté, notamment quand il s'arrête en plein milieu d'une course. Ça, c'est quand même assez surprenant de la part de Kylian Mbappé. C'est pas l'habitude qu'on avait. Enfin, on n'avait pas l'habitude de voir ça. Marion, toi, tu continues de croire que Mbappé est toujours indispensable à ce Paris Saint-Germain là, même si Neymar et Messi s'entendent à merveille.
Oui, mais parce que, comme l'a dit Fred, c'est lui qui a tenu l'équipe complètement à bras-le-corps l'année dernière quand les deux autres ne voulaient pas courir sur un ballon et faisaient rien. C'est lui qui a sorti le PSG à chaque fois avec des buts, etc.
Pas pris l'année dernière.
Oui, mais d'accord, mais bon, de toute façon, c'est aujourd'hui Kylian Mbappé va être le meilleur joueur du monde, pas le meilleur joueur du PSG, va être le meilleur joueur du monde. C'est ce qu'il vise. Il a parlé du Ballon d'Or, il a parlé de ses objectifs individuels. C'est quelqu'un qui a un gros ego et c'est complètement normal. Tu peux pas être un champion de ce calibre sans avoir d'ego.
On est d'accord, Marion, on est d'accord sur l'ego.
Il faut pas toucher à l'ego de Fred Weiss, sinon ça va barder. Donc tu peux pas avoir un joueur qui ne soit pas frustré de se dire voilà, j'ai manqué un petit bout de la préparation, j'arrive avec une petite blessure aux adducteurs. Effectivement, problème personnel ou pas, c'est compliqué parce qu'on n'a pas énormément d'informations, donc c'est beaucoup de points d'interrogation et de choses qu'on essaye d'extrapoler, mais qu'il soit frustré de se dire effectivement les deux autres reviennent très fort, ils ont eu l'habitude de se trouver en permanence au Barça, et moi il va falloir que je me greffe là-dessus alors que je veux tout faire pour le PSG, marquer mes buts et être le meilleur joueur aujourd'hui au monde, devant certainement Karim Benzema, avec en ligne de mire la Coupe du Monde à la fin de l'année, que tout ça entraîne de la frustration et que peut-être son comportement sur le premier match ne soit pas excellent, ça c'est une certitude, mais tu ne peux pas te dire qu'un PSG aujourd'hui peut faire sans Kylian Mbappé au vu de ses stats de l'année dernière, au vu de ses points de vitesse et au vu de sa capacité pardon, à débloquer un match. Donc oui, bien sûr que Neymar et Messi sont des joueurs extrêmement, extrêmement importants aussi dans l'effectif du PSG. Mais quand tu vois les stats de Kylian Mbappé, tu te dis quand même qu'à un moment donné, il peut venir te débloquer un match parce que sur une pointe de vitesse, il va faire une accélération et qu'il va trouver la défense et qu'il va te mettre un but. Donc, c'est pour ça que le PSG s'est arraché autant l'année dernière. Sinon, s'ils n'avaient pas autant besoin, pourquoi ils auraient fait un tel forcing? Ils ne seraient pas laissés partir au Real Madrid.
Mais ça ne dit pas le contraire. Après, ce que dit Manu, c'est que peut-être dans un vestiaire, et l'équilibre d'un vestiaire, Manu, tu le connais par cœur, ça tient pas grand chose. Mbappé, quand il a re-signé, en gros, c'était pour être le numéro 1 sur le terrain, et visiblement pour l'instant, début de saison, certes, c'était que son premier match.
Il faut l'assumer,
alors,
hein,
il faut pas s'alarmer non plus.
Premier match, évidemment, il faut pas s'alarmer.
Parce que il va évacuer ses problèmes personnels, et j'espère le plus tôt possible. Après, il faut qu'il se mette au service de l'équipe aussi. Quand on est un grand joueur comme lui, il est, et au niveau football, on n'a rien à lui reprocher par rapport à tout ce qu'il a fait depuis qu'il a commencé à Monaco et au Paris Saint-Germain, on peut rien lui reprocher. Mais il y a des attitudes et il faut se mettre au service de l'équipe. C'est un sport collectif, c'est pas un sport individuel comme Marion. C'est pas évident de se motiver. Il faut avoir un encadrement derrière pour pouvoir chaque fois bien doser. Là, c'est un sport collectif et on a besoin de tout le monde. Tout le monde, c'est les 11 joueurs, c'est les remplaçants, c'est les entraîneurs, c'est le staff qu'il y a autour. Et donc, il faut qu'il se mette aussi au service. Un grand joueur doit se mettre au service de l'équipe. Et là,
moi je pense qu'il est capable de le faire.
Est-ce qu'il est capable de le faire?
C'est pas parce qu'il commence à dire partout qu'il veut être Ballon d'Or. Ça veut pas dire qu'il soit pas capable de le faire. Avoir des objectifs très élevés, avoir envie de faire individuellement des choses très importantes, ça veut pas dire que tu veux pas te mettre au service de l'équipe.
Attention, parce que tout le monde parle en même temps. Bon, en même temps, c'est le principe de l'émission, mais vous rentrez dedans, mais il faut que les gens comprennent. Ouais, Marion, tu voulais rajouter quelque chose?
Moi, ce que j'ai trouvé hier, en fait, qu'il a le plus frustré, c'est effectivement ce circuit de passe qu'il y avait entre Neymar et Messi et qu'il n'était pas intégré dedans. En fait, on avait l'impression vraiment de se retrouver un petit peu en décalage comme ça, d'avoir les deux autres qui ont trouvé leur point de repère très rapidement et lui de se dire mais où je me place, où je me mets, comment je m'intègre là-dedans. J'ai l'impression que c'est ça qu'il a le plus frustré. Mais ça, c'est des problèmes qui se règlent en interne, avec plus d'entraînement ensemble, avec le coach qui donne une tactique. Le coach qui donne une tactique en disant vous allez faire ce circuit passe maintenant à 3, mais je pense vraiment pas que Kylian Mbappé est pas là pour gagner avec le PSG. Il est là bien évidemment pour gagner avec le PSG, mais quand t'as autant d'objectifs autant d'ego, tu peux comprendre une certaine frustration, mais moi je trouve ça plutôt assez simple. Ça veut dire qu'il a envie de bien faire.
Il sera plus vu encore, et ce sera encore plus intéressant pour lui. Il y a plus de chances d'être en haut s'il gagne collectivement et qu'il est performant individuellement. Évidemment qu'il y a un peu.
Après, Marion en parlait aussi, il y a eu cette interview dans France Football, on sait pas comment ça a été perçu par les autres, où clairement il dit voilà, je veux être Ballon d'Or. Donc évidemment, le Ballon d'Or, ça passe par des stats individuelles, par marquer les pénaltys, par être celui qui tire les pénaltys au PSG.
N'importe quel joueur NBA le dit tout le temps et personne n'est choqué par rapport à ça.
Il a osé le dire, c'est bien parce que c'est ses ambitions.
C'est quoi le problème par
rapport à ça? En NBA, c'est vrai que les statistiques sont quasiment plus importantes que les victoires collectives.
Mais en foot, maintenant, les statistiques sont pas importantes?
Si, c'est important.
On passe au parler dans un monde de statistiques maintenant, même si collectif, individuellement, il faut être performant.
Mais pour gagner, il faut peut-être penser collectivement.
Oui, mais si tu veux être Ballon d'Or, il faut que tu gagnes aussi. Tout seul, tu vas pas être Ballon d'Or. Donc, il a besoin de l'équipe. l'équipe aussi.
Et Kylian Mbappé a dit justement qu'il avait envie de se battre pour le collectif aussi cette saison, que c'était tourné vers le collectif. Le discours de Luis Campos et de Christophe Galtier, c'est vraiment de faire corps avec cette équipe là aussi, et ça rentre dans ce qu'on vient de dire. En revanche, pour revenir sur l'entente entre Neymar et Messi, Marion en parlait tout à l'heure. Alors, je pense que le chat dans la gorge, c'est parce que t'as chanté Garou. Ah non, Marion, tout
simplement. Mais c'est vrai.
Faut que je me réveille doucement le matin avec moi, tu vois, petit à petit, c'est comme Mbappé, c'est petit à petit, match après match.
Tu parlais de cette entente entre Messi et Neymar. Alors oui, ils se connaissent depuis longtemps, mais on a vu que la saison dernière ça marchait pas forcément entre ces deux là
parce que physiquement elles étaient complètement charrettes et qu'ils n'arrivaient pas à prendre un ballon.
Mais on a vu en tout cas sur la préparation au Japon et sur les deux premiers matchs au Trophée des Champions et contre Clermont qu'il y a une entente incroyable entre
quitte à exclure les autres, c'est ce que je disais.
C'est difficile de s'inclure dans ce schéma là. Après, Christophe Galtier le disait, c'est un énorme privilège d'avoir en tête le problème ou non d'inclure Kylian Mbappé dans ce schéma tactique. Mais c'est vrai qu'hier, on l'a vu hors un peu des circuits de passe, et que la première vue de Neymar ou de Messi, c'était chercher l'un ou l'autre, et que Kylian Mbappé était parfois un peu esselé.
Disons, quand tu es Sarabia, puisque c'était le cas lors des deux premiers matchs, ça pose pas de problème, parce que Sarabia, clairement, il se met au service du collectif, il touche pas un ballon dans le match, et ça ne dérange pas. Mais quand tu t'appelles Kylian Mbappé, ne pas toucher un ballon dans le match, ne pas être servi, ça peut poser un problème pour
Christophe Galtier aussi. Est-ce que Mbappé est pas mieux au niveau avant-centre pur au lieu sur le côté? Il aurait peut-être plus l'opportunité de demander les ballons en profondeur et d'avoir plus de jeu avec Neymar et Messi.
Il a tenté hier de piquer dans l'axe à plusieurs reprises, mais à chaque fois il a été agacé justement parce qu'il n'a pas été servi. Mais c'est vraiment ce qui a marqué, c'est vraiment cette passe non faite du coup de Vitinha dans l'autre jeu à Mbappé qui attendait ce ballon sur le côté gauche. Et c'est la première fois, en tout cas j'ai l'impression depuis bien longtemps, de voir Kylian Mbappé stopper comme ça cette course et rester vraiment sur cette action pendant des minutes. Pendant des minutes, il a pesté. Pendant des minutes, il a regardé la pelouse du Parc des Princes. Il s'en est voulu à lui-même aussi, on avait l'impression. Mais surtout, il a eu beaucoup d'invectives envers ses coéquipiers. Et il est resté longuement sur cette action. Alors, il y avait certainement le pénalty manqué, arrêté. Oui. Si on écoute Christophe Galtier, arrêté surtout par le gardien adverse.
Arrêté, oui,
mais c'est vrai que le début de match n'a pas.
Et puis, à chaque pénalty, il va y avoir des penalty gates, comme encore une fois hier, où on a vu cette longue discussion entre Neymar et Mbappé.
C'est l'attitude sur le deuxième penalty où Neymar et Kylian Mbappé discutent sur le rôle du penalty. C'est ça aussi le problème, c'est que quand tu loupes un penalty, normalement tu dois le retirer pour te remettre en confiance si tu le marques, bien sûr. Mais là, je crois que Neymar a dit à Kylian, je dis grossièrement, allez, casse-toi, c'est moi qui le tire, quoi.
L'ordre était établi par Christophe Galtier, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Le premier tireur, c'était Kylian Mbappé. Le deuxième, c'était Neymar.
D'accord. Ouais, mais...
Donc, alors, s'il y a deuxième pénalty dans le match, c'est Mbappé en
troisième pénalty, c'est Messi.
Ah, ce que disait Christophe Galtier, il a parlé que des deux premiers.
Non, t'as un premier tireur, il doit tirer les pénaltys. Le 1, le 2, le 3, le 4.
Bon, en tout cas, Galtier, il a un chantier quand même. Devant
énorme,
lui. Mais
énorme.
Ça, c'était attendu, évidemment, c'est le rôle du coach, on verra comment il s'en sort.
Il va falloir gérer les égos.
Oui, exactement.
Les autres. Et là, ça va être très, très, très compliqué.
C'est exactement ce que je dois faire, moi, ce matin. Merci, en tout cas, Clément.
Bonne journée.
À très bientôt, Clément. Tu reviens quand tu veux dans les GG qui reviennent avec leur égo, bien évidemment. Dans un instant, on a un message, tiens, sur le répondeur des GG, on va parler de basket. On va parler d'un ego aussi surdimensionné dans un instant dans les GG sur RMC. Restez bien avec nous, à tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
François Pinet.
Il est 9h32, vous êtes sur RMC à l'écoute des GG. On vous en remercie bien sûr, les GG du sport en direct jusqu'à midi, en podcast pour les leftards, nos GG du jour. C'est Mario Bartoli, Manu Amoros et Fred Weiss dans 15 minutes, la séquence préférée des GG, le on s'en fout, on s'en fout pas. Alors Fred, hier Manu a découvert cette séquence, il avait pas tout compris mais maintenant il a compris après une journée, donc on parlera notamment du rugby.
Merci François.
Bah oui, mais bon.
Je vais te voir, je vais te tacler.
Fais attention, ton ton était un tout petit peu condescendant quand même.
Non, mais Manu me connaît.
Ma titillée à Marseillais.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Je crois que t'avais plus le droit de dire Marseillais. J'ai entendu hier.
Mario, elle est frustrée.
Ah non, Marseillais, c'est pas l'OM. Attention.
Elle est stressée parce qu'il y a Brest-Marseille ce soir. On parlera du rugby avec les All Blacks, d'ailleurs, qui ont gagné un match, et d'un nageur français qui est passé de Monsieur Poissard à champion d'Europe. Ça, c'est une histoire assez incroyable. On en parlera dans ce zapping. Ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, ça, en tout cas, il faudra trancher. Mais tiens, à 9h33, sur RMC, on a un message, je crois, sur le répondeur des GG. On l'écoute.
Vous avez 3 nouveaux messages. hier à 19h29.
Salut les grandes gueules, vous allez bien? C'est Alexis Ajassa. Et j'aimerais avoir votre avis sur l'une des nouvelles de cette semaine. À savoir que Kevin Durant souhaiterait avoir la tête de Steve Nash, son actuel coach aux Nets. Est-ce que ça vous choque ou au contraire? C'est le business et il faut donner le plein pouvoir aux grands joueurs. Je vous laisse me répondre et je vous souhaite une bonne émission. À plus.
Eh bien, merci Alexis Agençat, qui a pris sa retraite il y a quelques temps. Alexis Agençat qui nous a laissé un message sur le répondeur. Il a un petit accent américain, hein, parce que je crois qu'il vit aux États-Unis, hein, c'est ça?
Oui, frère, c'est ça.
Voilà. Alors, il nous parle de Kevin Durant, qui effectivement est la star des Brooklyn Nets, qui a mis la pression à son club cette saison. Il ne restera pas au club si l'entraîneur Steve Nash et le manager général Sean Marks ne sont pas licenciés. Il ne croit pas en la réussite de la franchise avec ces deux hommes à la tête du club. Alors, pour l'instant, le patron maintient son soutien à Steve Nash. Mais cette situation pourra peut-être pas durer éternellement. Alors cette question, les GG, Kevin Durant qui demande la tête de son coach. Est-ce que c'est choquant ou pas choquant, Manu Amoros?
Choquant.
Choquant. Mario Bartoli.
Pas choquant parce qu'il sait très bien qu'il l'aura pas, mais c'est pour obtenir autre chose.
Pas choquant. Fred Weiss.
Pas choquant.
Pas choquant. Allez, on commence par toi, Marion.
Ils ont fait du sport au niveau, les deux, là.
On a fait du sport, on n'a pas dit à haut niveau, on a fait du sport.
On a fait du sport. On a fait un peu de business aussi.
Ouais, ils font surtout d'accord. Du business, Manu.
Ouais, ouais. Le football, c'est vrai qu'on ne fait pas du business. À mon époque, on jouait au football, mais l'argent ne nous intéressait pas.
Manu, tu es le seul romantique autour de cette table. Voilà, c'est pour ça que tu es là. On va commencer par toi, Marion. Tu ne trouves pas ça choquant, toi, que Kevin Durant demande la tête de son coach?
Mais non, parce qu'en fait, si on rembobine un petit peu le fil de cette histoire, fin juin, début juillet, il demande à être tradé, donc à être échangé, parce qu'il voit que les résultats sont pas bons, ils ont pris... La saison n'a pas fonctionné, ce qui était ses attentes au début quand il est arrivé en 2019... avec une attaque de feu avec Kyrie Irving et James Harden qui les a rejoints ensuite en 2021. Finalement, la mayonnaise a pas pris du tout. Il y a eu des problèmes en interne. Et du coup, il demande à être tradé. Sauf que son propriétaire du club, Joe Tsai, lui refuse pas directement, mais il dit, écoute, on va voir. Et puis, il y a aucune piste. Ils prennent 4-0 contre les Celtics. Et il s'aperçoit qu'en fait, non seulement il va pas être tradé, mais qu'il va rentrer et re-rentrer dans une saison où il y a une équipe qui a pas du tout tourné et qui va faire une saison à nouveau catastrophique. Donc, pour obtenir ce qu'il veut, effectivement, il met un coup de pression où il sait très bien qu'il l'aura jamais. Le propriétaire du club a jamais licencié le GM et l'entraîneur, c'est évident. Mais maintenant que c'est public et qu'il a ouvertement dit que son entraîneur était inapte à les entraîner et qu'il était complètement nul, c'est sûr qu'il peut pas rester dans cette équipe. Donc, en fait, il va obtenir de manière un petit peu agressive ce qu'il voulait au départ, c'est-à-dire être tradé. Mais tu peux pas lui dire, tu peux pas dire que c'est inadmissible. C'est juste que voilà, il aurait dû l'obtenir au début, que son propriétaire a pas voulu, et que maintenant il emploie un petit peu la manière forte. Mais ça, j'ai l'impression que ça se fait quand même pas mal au basket. Et moi, ça me choque pas énorme. En plus, c'est un immense joueur que j'apprécie énormément. Et je trouve qu'il a beaucoup plus éclaté s'il joue aux Celtics ou ailleurs. Et Kyrie Irving s'il part aux Lakers, et je pense qu'on va avoir des matchs bien plus intéressants à voir que ça continue à être un cimetière aux Nets et qu'ils arrivent pas à faire quoi que ce soit. Qui prennent que des tôles à chaque match.
Alors Manu, toi t'es pas d'accord avec
non,
ça?
Non mais en tant que grand joueur, mais bien sûr que c'est un grand joueur, il y a pas de problème de ce côté-là. Mais comment un joueur peut décider de l'avenir d'un entraîneur ou de l'avenir d'une personne dans le club? Ça c'est choquant. C'est choquant parce que on n'a pas le droit de faire ça. Il y a des êtres humains qui sont en face et le dialogue peut rentrer entre les uns et les autres pour pouvoir trouver des solutions. Malheureusement, il y a pas de solution et il prend à travers ça les journaux. Les médias pour se dire aujourd'hui voilà, moi j'ai pas fait une très bonne saison l'année dernière et pardon, ça me permet de dire certaines choses sur l'entraîneur, mais qui lui aussi doit faire des efforts sur le terrain pour pouvoir gagner des matchs. S'il n'y a pas que l'entraîneur il est là pour donner bien sûr des indications, préparer les joueurs, préparer la tactique, mais c'est les joueurs qui jouent et c'est eux leur responsabilité sur le terrain. Et en plus c'est plus facile de virer un entraîneur que de virer 5, 10, 15, 20 joueurs. C'est ça qui me choque, moi.
Mais le coup de pression, et tu n'as pas aimé, surtout que Steve Nash c'est pas n'importe qui, hein, pour ceux qui sont
MVP,
voilà, c'est pas n'importe
joueur
qui.
Joueur phare des Phoenix Suns.
Voilà. Bah oui.
Toi, Fred, tu le connais en plus, tu as joué contre lui, je crois.
Oui, exactement, aux Jeux Olympiques à Sydney. Voilà. Donc oui.
Mais toi, ça te choque pas que Kevin Durant te demande ça?
Ça me choque pas, mais Manu m'a pas laissé m'expliquer. Alors ça me choque pas parce que je connais le business de la NBA, tout simplement. Les joueurs sont les boss là-bas, en fait. Et c'est vrai qu'on a du mal à le comprendre ici, et moi, je ne le cautionne pas du tout. Sauf que, là-bas, une superstar a plus de poids que n'importe qui dans le club. Pourquoi ? Parce qu'il touche 50 millions quasiment à l'année. Donc à partir de ce moment-là, l'importance le pouvoir économique...
L'importance, c'est au niveau du salaire. Quoi.
Évidemment, qu'est-ce que tu vas faire d'une superstar dont tu as besoin pour gagner un titre, qui ne joue pas ou qui n'a pas envie de jouer ? En fait, il y a des mecs qui sont capables de dire « je ne joue pas ».
Oui, mais ce qui choque Manu, c'est justement que le mec dise « je ne joue pas » alors qu'il touche ce pacte.
Ouais, sauf que c'est ça, c'est la NBA. En fait, encore une fois, c'est Manu, c'est le business de la NBA.
Hein.
C'est comme ça.
Et si tu le vois dans ce sens-là,
c'est dans ce sens-là. Encore une fois, moi, je ne cautionne pas du tout ça, sauf que c'est une ligue de joueurs, la NBA. Les joueurs ont le pouvoir. Et après juste pour revenir sur ce que dit Marion... Alors, ils ont tout fait quand même, aux Nets, pour que l'équipe soit compétitive. Quand tu prends Kyrie Irving, que ensuite tu essayes de trader, tu prends James Harden, tu as une des plus belles attaques de l'histoire possible. Après, ils ont eu pas mal de soucis de santé, de mecs qui est platiste, qui pense que la Terre est plate et qui est complètement bardo.
Kyrie Irving, il est complètement
fou. Il a pas voulu se vacciner. Enfin, il a quelques idées un peu bizarres.
Plus que des lubies, ouais.
Et donc, à partir de là, ça fonctionne pas. Mais est-ce qu'on peut pour autant dire que c'est la de Nash? Non, pour moi c'est compliqué de tout mettre sur Nash. En plus, après ils disent ok, vous n'êtes pas content de James Harden veut partir, on le trade, on prend Ben Simmons. Et lui ne joue pas non plus. Donc en fait, il y a plein de choses qui ont fait que ça n'a pas fonctionné.
Exactement, c'était une chaîne.
KD, c'est un mec qui est habitué de faire
Kevin Durant, KD
Kevin Durant, c'est un mec qui est habitué à foutre de la merde. Je suis désolé du terme, c'est pas un joli terme, mais mec, il était à OKC, ça se passait plutôt pas trop mal. Finalement, il
OKC, voit... c'est Oklahoma City.
Ah, donc il faut que traduire. Ça se passait pas trop mal. Et finalement, il voit les Warriors. Il dit tiens, si on allait monter une super team avec les Warriors pour gagner deux titres. Moi c'est, il a des faux comptes Twitter. Ce mec est complètement fou, lui aussi.
Ah ouais.
Donc à partir de là, moi, je ne cautionne pas du tout ça. Kevin Durant est un des plus grands attaquants de l'histoire du basket, mais son histoire, elle sera toujours ternie par son caractère. Et cette façon de demander la tête d'un coach et d'un GM qui en plus vient de re-signer, donc c'est impossible que ça se passe.
Exactement.
C'est complètement
débile. Il le sait très bien.
Mais il le sait bien aussi qu'il l'aura pas, effectivement.
Il n'aura pas tous les pouvoirs.
C'est juste pour être aidé.
C'est-à-dire que déjà que c'est une ligue de joueurs qui prennent toutes les décisions, si en plus son propriétaire dit ok, t'as raison, on va virer tout le monde, et toi qui dis là, c'est mort.
Donc c'est plutôt rassurant.
Fred, est-ce qu'il a un contrat? Il peut se défaire de ce contrat aussi facilement que ça?
Non, il faut. Il faut trader. Trader, c'est-à-dire que tu es échangé dans une autre équipe à salaire équivalent avec un autre joueur. Enfin, c'est assez complexe. Surtout que Kevin Durant, cette année, il va gagner 44 millions. Donc, c'est pas un joueur super facile. Tout le talent qu'il a, c'est quand même pas très facile. En plus, il a signé il y a pas très longtemps. Donc, c'est très compliqué comme position. Et les Nets sont vraiment pas très bien à cause de cette situation. Et Kyrie Irving, c'est pas beaucoup mieux parce que lui aussi, il veut partir. Il va rester parce que lui aussi, il a une cinquantaine de millions à prendre. Donc, concrètement, la situation des Nets, j'aimerais pas être à leur place.
Bah, en tout cas, moi, j'aimerais bien être à la place de Kevin Durant. T'as 44 millions, moi, je travaille avec n'importe qui. Hein.
Notre ami Geoffrey l'a appelé Kevin Durant avec un D.
C'est vrai, Geoffrey Charpy. Bam, voilà, ça c'est pour toi, Geoffrey, qui est en régie. Voilà, effectivement, faut expliquer aux gens. Et envoie le programme à toutes nos GG, bien sûr, pour qu'ils préparent l'émission. Et il a écrit Kevin Durant avec un D. Voilà, c'est pas tout à fait ça. Mais bon.
Mais je note, François, que je t'ai dit quand même ça allait pas se passer, mais tu m'as pas écouté. Tu m'as pas écouté. Quand je t'ai dit que j'allais jamais virer le coach, j'ai jamais viré le GM, tu m'as pas écouté. Par contre, quand Fred l'a dit, t'as dit ah bon, c'est une information intéressante.
Ouais, excuse-moi, Fred, il a fait un tout petit peu plus de basket, mais tu l'avais dit, et bravo à toi, Marion, et effectivement, je. Voilà. Mais Marion, tu m'en veux ce matin, je sais pas ce qui se passe. Non, tu m'en veux quelque chose.
Elle a pas bien dormi, te l'a dit tout à l'heure.
Elle est stressée parce que Marseille joue ce soir, c'est tout. Exactement ça, mais bien sûr. Dans quelques instants, les GG, vous avez été parfaits. Encore une fois, on se retrouve avec le zapping, le on s'en fout pas. Et je vous proposerai, tiens, l'histoire d'un Français qui est passé du titre de plus grand poissard de l'histoire au titre de champion d'Europe. On va voir si ça vous intéresse. On en parle dans un instant, à tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
François Pinet.
Il est 9h46 sur RMC. Ravi de vous retrouver pour les GG du sport qui continuent bien sûr jusqu'à midi avec des GG en pleine forme en ce dimanche. Marion Bartoli a chanté, Fred Weiss est avec nous et Manu Amoros pour sa deuxième dans les GG qui se fait un peu charrier mais qui est parfait. 10h, ça sera la punchline des GG. Punchline de Carlo Ancelotti sur Karim Benzema, essentiel au Real Madrid, bien sûr, c'est ce qu'a dit le coach du Real. À tel point qu'on se pose cette question qui vous a fait réfléchir toute la soirée, les GG. Qui a le plus marqué l'histoire du Real Madrid ? Benzema ou Zidane, on vous attend pour en parler bien sûr, ça sera dans un petit instant à partir de 10h. Mais d'abord, notre zapping première version.
RMC,
le zapping des grandes gueules du sport.
Avec donc ce on s'en fout pas, je rappelle la règle, plusieurs infos à vous donner, infos de la semaine, à vous de me dire si ça vous intéresse ou pas. Vous avez le droit de parler si vous ne vous en foutez pas, en revanche sinon vous passez votre tour et si tout le monde s'en fout, on zappe l'info. Alors on va commencer par le nageur français Ndoye Brouard qui est champion d'Europe après être passé tout près de la disqualification. On s'en fout pas Marion Bartoli
Non, je m'en fous pas.
Tu t'en fous pas, Fred Weiss.
Je m'en fous pas.
Tu t'en fous pas. Manu Amoros.
Je m'en fous pas.
Vous ne vous en foutez pas, c'est très bien. Incroyable histoire de Johan Ndoye Brouard qui était devenu champion d'Europe du 200 mètres d'eau hier à Rome. Pourtant, la veille, en demi-finale, il casse son cale-pied. Un coup de malchance qu'aurait pu lui coûter sa place en finale sans la réclamation de l'équipe de France, réclamation acceptée. Le Français se retrouve alors tout seul dans le bassin pour essayer de faire un temps pour le qualifier pour la finale. Il réussit. Et la suite, c'est une course parfaite en finale où il s'offre l'or. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce Johan Ndoye Brouard a été très malchanceux aussi au JO de Tokyo. Il avait été ébloui par les projecteurs, sa tête avait heurté le mur au moment du virage et il avait été disqualifié. C'est pour ça que c'est une histoire incroyable et ça se termine bien avec l'or. Alors tu t'en fous pas Marion ?
Il n'y avait plus quoi après. Je sais non, pas, son maillot
fou,
de bain.
C'est fou cette histoire.
J'ai l'élastique de son maillot de bain casse et son maillot de bain descend quand il plonge. Bon, je sais pas. Après, au-delà, tu sais, quand à un moment donné, t'es malchanceux. Mais tu vois, il y a toujours un rebondissement. C'est ça qui est intéressant. C'est bien qu'il soit battu jusqu'au bout. Bravo, notre Français.
Fred, tu t'en fous pas.
Non, je m'en fous pas parce que c'est très impressionnant de faire une course tout seul pour essayer de rattraper le temps et de se qualifier en finale. Moi, je trouve ça incroyable. Le mec, clairement, ça fait presque rire tellement le mec a pas eu de peau. Et là, il arrive à faire une course parfaite, à avoir un titre. Enfin, félicitations à lui parce que ça devait pas être évident dans la tête.
Et toi Manu ?
Alors tu sais qu'il a été aidé par le public parce que tous les gens sont restés et il était seul dans la piscine et tous les gens l'ont poussé pour pouvoir réussir cet exploit de se qualifier et d'être en finale. Donc c'est un exploit fantastique qu'il a fait parce que comme disait Fred, c'est pas évident de nager tout seul parce que quand tu es à côté des uns et des autres, tu peux lever un tout petit peu la tête et voir où ils sont, accélérer ou pas. Là, tu es obligé d'être à fond pendant 200 mètres. Et là, c'est pas évident.
Mathieu, tu parlais de ça, de cette demi-finale tout seul dans le bassin, soutenu par le public. Il en a parlé à Julien Richard, qui est à Rome pour suivre ses championnats d'Europe de natation. Écoutez.
Un peu d'émotion. C'était la première fois. Première Marseillaise pour moi. Donc ça fait bizarre. Il y avait du monde et j'ai l'impression qu'ils m'aiment bien les Italiens. Donc il y a beaucoup de bruit. Ça m'a fait chaud au cœur. Puis il y a toute ma famille dans les gradins. Donc j'étais content de les rendre fiers, quoi. Ils sont venus comme ça et bah ça valait le coup, je pense, de venir. C'est une belle histoire qui se termine bien. Voilà. Le responsable de l'école m'a dit bon bah t'as voulu écrire une belle histoire, maintenant faut bien la terminer. Je pense que je l'ai terminé de la meilleure façon.
Voilà, Johan Ndoye Brouard qui aurait pu être appelé Pierre Richard, mais heureusement il termine avec l'or. Donc bravo à lui et félicitations vraiment pour cette médaille d'or au championnat d'Europe. À suivre d'ailleurs sur RMC, ces championnats d'Europe. Tiens, une autre info, les All Blacks qui mettent fin à leur série noire. On s'en fout pas, Fred Weiss.
On s'en fout pas.
Manu Amoros.
Oh, on s'en fout.
On s'en fout. Marion Bartoli.
Non, on s'en fout pas, j'adore les All Blacks.
Ouais, on en a parlé la semaine dernière, effectivement. Avec Richard Dourte à l'époque.
Non, j'aime pas tout, attention.
Mais la pression, mais t'aimes tout, Marion, toi.
Ah ouais, chaque fois.
Mais elle aime tout, elle a le droit.
Elle a le droit,
elle s'intéresse aux autres sports, elle a le droit.
Mais tu as le droit de dire toi aussi que tu t'en fous, c'est le principe.
Mets-moi un zapping sur la boxe, je vais te faire un air zapping à chaque fois.
En tout cas, sur le rugby, l'équipe de Nouvelle-Zélande vient enfin de gagner un match. Elle restait sur 3 défaites consécutives, dont une concédée la semaine dernière. On en a parlé d'ailleurs dans les GG avec Richard Dourte contre l'Afrique du Sud. Les All Blacks ont pris leur revanche en battant les Sud-Africains 35-23 à Johannesburg dans le cadre du Rugby Championship. Et ça donne un peu d'air au coach Ian Foster qui est très très critiqué. Tu t'en fous pas Fred ?
Ben non, on en a parlé la semaine dernière et c'est vrai qu'on s'inquiétait un petit peu pour les All Blacks. On disait que c'était une équipe qui était redevenue banale. Bah là, c'était important de marquer le coup et de se venger un petit peu de la défaite. Donc non, on s'en fout pas forcément. Et ça fait plaisir que les All Blacks reviennent dans la course.
Toi aussi, j'imagine, Marion, c'est pareil. Contente.
Exactement, parce qu'on l'avait vu avec Richard, le tsunami qu'ils avaient pris médiatique. Et comme le disait Richard, ça soufflait au pays. Donc le rugby est tellement roi là-bas. Effectivement, quand les All Blacks perdent, c'est vraiment catastrophique. On a des voix repartir un petit peu vers l'avant. Et puis bien sûr, il y a ces grosses échéances qui arrivent aussi, hein, ces grosses échéances internationales. Donc ils se préparent pour ça. Et on va les jouer, on va les affronter
Et oui,
premier tour de
l'année prochaine.
Oui. Donc exactement. Donc, il faut voir, il faut les suivre, ces All Blacks.
Et ils seront dans deux semaines contre l'Argentine. On verra si c'est un sursaut, un petit sursaut ou un vrai réveil pour ces All Blacks. Tiens, une autre info sur la Fédé anglaise de foot. Une info de la semaine qui veut contrôler les couleurs et les logos des clubs. Est-ce qu'on s'en fout ou est-ce qu'on s'en fout pas, Manu Amoros?
On s'en fout pas.
On s'en fout pas. Fred Weiss?
On s'en fout pas.
On s'en fout pas. Mario Bartoli?
Je m'en fous complètement.
Tu vois, Manu?
Eh ouais, parce que c'est pas la Ligue française, donc voilà, elle veut pas changer le logo de l'OM.
Arrête de vouloir tout contrôler.
Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de parler quand on s'en fout, Marion. Juste, je vous rappelle cette info, donc la loi qui va permettre à la Fédé anglaise de prendre des mesures pour ordonner un club de revenir à son ancien écusson ou aux anciennes couleurs de maillot si ces changements choquent les supporters du club. Alors pour l'instant, ne sont concernés que les maillots à domicile, parce qu'on a vu les maillots extérieurs, notamment de Manchester United, qui font jaser. Pour l'instant, c'est seulement les maillots à domicile qui sont concernés par cette loi.
François, t'as vu le maillot de Rennes hier contre Monaco?
Ouais, bleu et noir. Ouais.
Bleu et noir, c'était pas terrible.
Je suis d'accord. Manu, toi, ça
ouais, t'intéresse? Moi, ça me choque parce que pourquoi la Ligue, qu'elle organise le championnat, qu'elle
Ça te choque, toi, tu veux pas,
non,
pas
non,
pour
non,
ça.
Je m'en fous pas. Je m'en fous pas parce que ça me choque que la Ligue se mêle des choses qui ne la regardent pas.
Ah ouais.
Et pourquoi elle prend parti des supporters? Les supporters doivent gérer avec le club. Il doit y avoir des dialogues, des discussions avec les supporters et le club, parce que tu sais qu'aujourd'hui, les supporters prennent beaucoup d'ampleur dans le club. Ils s'immiscent des fois dans des discussions qui ne devraient pas. Et à partir de là, voilà, et la Ligue devrait faire son job, créer son championnat, faire ses matchs tranquilles et laisser les clubs gérer tout ce qui est maillot, écuisson, supporters ou pas.
D'accord. Fred, tu es sur la même ligne, toi, comme
Aïe? Pas du tout, juste le contraire. Moi j'adore l'idée d'avoir un garde-fou et de se dire que parfois les clubs ils font un peu n'importe quoi pour du marketing et que il y a une charte et qu'à partir de là on a une ligue qui surveille ce qui se passe, qui parle avec les supporters, qui continue à travailler sur l'histoire des clubs, etc. Moi je trouve ça plutôt bien. Au contraire, j'adorerais qu'on fasse ça dans le basket.
Voilà, le garant des traditions, Fred Weiss. Si on m'avait dit ça avant de commencer l'émission, incroyable.
C'est pas la ligue qui est business
normalement.
Non, mais c'est le club.
Non, mais oui, mais ce sont des garde-fous, c'est ce que dit Fred. Ouais.
C'est dans ce sens-là, c'est effectivement.
Parce que les clubs font parfois n'importe quoi.
Alors les clubs parfois sur leur maillot, c'est catastrophique. Donc moi je suis ravi que quelqu'un puisse dire non, ça va pas. En plus les supporters ne cautionnent pas. Donc on va revenir à des couleurs plus basiques qui représentent l'histoire de ce club.
Bah Manu, si l'OM joue en bleu et rouge comme le PSG, tu vas pas être content.
Non, ça c'est sûr. Je crois qu'il faut pas s'immiscer dans les choses où le club peut avoir la possibilité de faire un petit peu ce qu'il veut. T'imagines s'il y a des garde-fous de partout, est-ce que les clubs s'immiscent dans la ligue en disant ouais cet arbitre il est mauvais, ça doit arriver, mais la ligue est indépendante, donc les clubs sont indépendants aussi, donc il y a avoir des échanges, mais pas imposer quelque chose.
Manu, c'est aussi du marketing. C'est-à-dire que la Ligue, elle comme ça, elle est sûre d'avoir une image un peu
plus
propre.
Alors, quand tu dis marketing, ça veut dire que ça tourne autour de l'argent. Alors, il n'y a que l'argent qui compte aujourd'hui. Il n'y a plus cet amour du sport en général.
Mais je suis d'accord avec toi.
Il y a l'argent qui compte, mais il faudrait arrêter. Il faut que revenir les pieds sur terre.
Et de pouvoir marketer une Ligue, je trouve ça très, très bien, moi. Au contraire.
En tout cas, c'est un vrai débat lancé par vous deux. Bravo. N'hésitez pas, hashtag RMC Live sur Twitter, appelez RMC Direct Studio si vous voulez en parler, ou encore 11h45 vous venez en parler dans les GG directement. C'est les GG et vous, votre rendez-vous de la fin d'émission. Et puis on aura un deuxième zapping à 10h45, vous le savez. On parlera notamment, tiens, de Nir Kyrgios, qui a fait encore une sortie fracassante en conférence de presse. Ça, je suis sûr que Marion, ça va l'intéresser. Dans un instant, la punchline des GG avec cette fois la phrase de Carlo Ancelotti sur Karim Benzema. Karim Benzema ou Zidane, qui a le plus marqué l'histoire du Real Madrid? Je suis sûr que vous avez un avis. On en parle dans un instant, les GG. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.